On est au lendemain de cette annonce du gouvernement du Québec de refuser le projet GNL Québec. On est pas mal plus en analyse de tout ça. On doit regarder vers l'avant, vers l'avenir. Et qu'est-ce qui restera justement de la polarisation d'un côté et de l'autre, du clivage social dans la région qui a provoqué ce projet-là pendant plusieurs années. Également, quel message s'envoie aux futurs investisseurs de d'autres projets? Ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu comme couverture médiatique, ce sont de très bonnes questions. Très, très bonne. Il n'y a personne qui a réussi à me convaincre jusqu'à maintenant que l'avenir est tout de même florissant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, même si on abandonne un projet privé de plusieurs milliards de dollars. On va aller en parler avec Miguel Ouellet, économiste et directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Ouellet, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
Comment allez-vous?
Super bien, vous?
Ça va bien, ça va bien. Dites-moi, c'est un processus qui s'est étendu sur des années et je reprendrai peut-être le titre de l'éditorial de Daniel Côté dans le journal local Le Quotidien ce matin. Tout ça pour ça. T'sais,
exact.
On a passé des années à perdre la salive d'un bord, de l'autre, à s'affronter manifestation par-dessus manifestation, des pour et des contre, pour se ramasser avec une fin en queue de poisson.
Ben effectivement. Puis quand vous dites manifestation après manifestation, c'était pas juste au Saguenay. Il y a eu des manifestations à Montréal, même en Abitibi, hein, des groupes de militants qui se sont activés dans ces régions-là. Donc, c'est vraiment un projet qui a polarisé l'ensemble du Québec. Puis qui a pris des années et des années d'analyse après le gros rapport du pape de plus d'une centaine de pages qui arrive. Et comme le dit Daniel Côté, tout ça pour ça, je pense que vous parliez d'avenir, ben ça envoie un très mauvais message aux investisseurs étrangers qui seraient potentiellement intéressés par le Québec, là.
Ben, c'est un peu mon questionnement parce que vous dites dans votre réaction depuis hier que le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, a visiblement pris en considération davantage une poignée d'activistes au lieu d'écouter la communauté. Ça va quand même plus loin que ça, le rapport qui a été fait. Oui. Puis une des parties du rapport, c'est le manque de financement, le manque d'investisseurs pour croire en ce projet-là. Donc, même si le gouvernement du Québec avait dit oui hier, visiblement, les investisseurs étaient refroidis par soit le manque de marché pour le GNL ou encore le fait que leur nom pourrait être accolé à un projet qui, dans la société, n'a pas l'air à faire l'unanimité.
Ben, vous voyez, je pense qu'il y a deux choses sur ça. La première étant que pour des investisseurs, là, on va se dire, si vous et moi, on avait à investir dans une place dans le monde, parce qu'effectivement, il n'y a pas juste le Québec dans le monde, mais là, est-ce qu'on choisirait vraiment le Québec pour notre investissement en gaz naturel pour une usine de liquéfaction? Moi, personnellement, la réponse, ça serait non, étant donné le flou réglementaire qui se pose au Québec et tout ce qui est d'acceptabilité sociale qui, selon le gouvernement, se mesure pas. Donc, les investisseurs qu'au départ étaient prêts à mettre des fonds privés dans le projet se sont un peu frappés en un mur réglementaire, puis ils ont vu qu'au Québec, c'est peut-être pas la terre la plus propice pour ce genre d'investissement-là. Donc, ça se peut que ça ait refroidi des investisseurs. On l'a vu avec d'ailleurs Warren Buffett et Berkshire Hathaway qui se sont désistés du projet. Mais moi, je pense pas sincèrement que c'est une faute de marché, mais bien une faute du flou réglementaire au Québec, parce que la demande de gaz naturel d'ici 2040 va augmenter de 30% mondialement. Il y a un marché qui est là, il y avait une opportunité en or devant nous qui était à saisir, mais malheureusement, on a mis des bâtons dans nos propres roues, là.
On a souvent au Québec, puis je vous lance pas la pierre, vous n'êtes pas le seul, là, mais on a tendance à s'auto-flageller beaucoup. Mais rappelons quand même que la crise des Wet'suwet'en, il y a plusieurs mois avant la pandémie, ça originait d'un projet de gaz naturel liquéfié dans l'Ouest canadien aussi. Le projet en Nouvelle-Écosse, ça n'a pas l'air à passer tant que ça non plus, parce qu'il y aurait aussi la création d'un gazoduc qui passerait par-dessus plusieurs provinces. Est-ce que c'est plutôt un problème canadien que juste québécois?
Ben, vous avez parfaitement raison de mentionner ça. Puis mon erreur, si j'ai l'air à auto-flageller nous-mêmes au Québec, mais c'est vrai que c'est un problème qui est national. Au Canada, c'est la même chose. Si on regarde, par exemple, les pipelines dans l'Ouest, ils ont encore présentement de la difficulté à aller de l'avant avec ça. On l'a vu avec Trans Mountain, qui finalement a été nationalisé par l'État fédéral. Donc, ça se passe au Canada, puis ça commence à se passer aux États-Unis. On le voit avec la ligne 5 d'Enbridge. Donc, c'est pas seulement un problème du Québec, mais un problème qui s'en va vers le Canada anglais, vers les États-Unis aussi, puis même une partie de l'Occident au final. Donc, je pense que c'est vraiment pour regarder froidement et d'une manière pragmatique les projets. Puis, ce projet de gaz naturel-là, c'est vrai que le gaz naturel, c'est pas une énergie renouvelable, c'est pas l'hydroélectricité. Toutefois, si on atteint le marché européen et le marché asiatique avec ce gaz naturel-là, on remplace des usines à charbon par du gaz naturel qui est beaucoup plus propre. Donc, c'est ça qu'il faut garder, c'est cette vision globale-là qu'il faut garder. Il ne faut pas croire que la lutte au changement climatique, on fait cavalier seul au Québec. C'est un problème qui est international. Puis, il faut voir la réduction des GES, pas seulement au Québec, mais de manière globale.
Un des principaux opposants au projet, du moins celui qui a eu la plus grande couverture médiatique dans les dernières années, c'est le député de Jonquière, Sylvain Godreau. Je ferai entendre des extraits un petit peu plus tard dans l'émission de son entrevue sur nos ondes ce matin. Et même lui admet que si le projet se fait pas ici, il va se faire ailleurs. Puis ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, là. Si ça se fait ailleurs, il n'y a pas d'hydroélectricité pour liquéfier le gaz. Donc, inévitablement, ce sera un projet plus polluant.
Bien, effectivement. Puis là, vous allez être content, je vais lancer des fleurs à notre belle province. On est une place qui a des conditions de travail qui sont, ma foi, assez excellentes. On a de la réglementation qui est en place. S'il y a un projet de gaz naturel qui arrive ici au Québec, on le sait que ça ne sera pas le Far West. Toutefois, si on dit non à ce projet-là, puis ils décident de le faire, je ne sais pas, en Arabie Saoudite ou même des pays un peu moins développés, même en Europe, bien, on le sait que la réglementation ne sera pas la même qu'au Québec. Donc, pour moi, j'aime bien mieux qu'une usine de liquéfaction soit au Québec que dans une autre région où il y a moins de règlements, puis ça va être moins bénéfique aussi pour la protection de l'environnement. Donc, M. Gaudreau, malheureusement, il a raison. Puis, j'ai bien peur que les investisseurs décident justement d'aller mettre le projet ailleurs, puis que l'effet net sur l'environnement soit plus néfaste que si ça avait été fait au Québec, là.
Mais si on regarde ça maintenant avec un peu de recul, vous disiez que c'est en train de s'étendre à la grandeur du Canada, même aux États-Unis, ces règlements-là qui sont contre le pétrole, contre le gaz aussi. On parle souvent de devenir des leaders en énergie verte. Y a-t-il réellement un gros marché privé, et j'insiste sur le mot privé, pour des investisseurs qui mettent de l'argent de leur poche dans l'économie verte actuellement?
Bien, je pense que oui, parce qu'en fait, faut voir ça de deux façons. Si on regarde des pays industrialisés comme, par exemple, l'Allemagne, mais l'Allemagne, il y a encore beaucoup d'usines au charbon. Donc là, il y a quand même une opportunité de transition énergétique. Puis on ne peut pas passer du charbon aux panneaux solaires en claquant des doigts. Il faut quand même une énergie de transition. Puis c'est là que le gaz naturel entre en compte. Puis ça, c'est un pays industrialisé. Maintenant, si on s'en va à des pays en voie de développement ou carrément du tiers-monde, bien, on le sait, c'est encore justement le charbon, le pétrole et tout ça. Donc, nous, le Québec ou le Canada, qui sommes des régions riches dans le monde, bien, on devrait permettre à ces pays-là d'avoir une opportunité de transition énergétique en leur envoyant du gaz naturel canadien fait ici par nos travailleurs d'ici. Puis c'est comme ça qu'il faut regarder la chose. Puis je pense que, oui, il y a des investissements qui se font de plus en plus dans les énergies vertes au Québec puis au Canada, mais de croire qu'il n'y aura plus de pétrole et de gaz naturel demain, c'est complètement farfelu. Puis ça, il faudra un moment donné se regarder dans le miroir puis se dire, il faut une transition, mais une vraie transition et non carrément une transition drastique où que demain on arrête le pétrole, ça fonctionne juste pas, là.
Ouais, parce que le problème pour une région comme la nôtre, souvent les opposants au projet, ou même c'est rendu que sans être opposant direct au projet, la CAQ essaie de trouver d'autres projets pour la région pour contrebalancer. On met de l'avant des histoires de cellulose forestière, c'est déjà annoncé. Hélicis, c'est déjà annoncé. Et on se rend compte que tous ces projets-là demande quand même moins d'emplois qu'auparavant. Donc, on n'est pas regagnant sur le nombre d'emplois pantoute, là.
Bien, effectivement. Puis si on regarde du côté économique par rapport aux emplois, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une de mes régions préférées, mais malheureusement, le taux de chômage année après année est souvent plus élevé que la moyenne provinciale. Après ça, si on regarde le PIB par habitant, donc le revenu par habitant est souvent inférieur aussi à la moyenne de la province. Donc, c'est des régions, on a besoin de projets économiques prometteurs dans ces régions-là. Puis là, on avait GNL Québec, c'est un investissement qui aurait pu atteindre 14 milliards de dollars, qui en aurait fait l'investissement, le plus grand investissement de l'histoire de la province du Québec, puis ça aurait été ici, au Saguenay. Donc ça, il faut regarder ça, puis se dire, si on veut un gouvernement qui fait la promotion d'une croissance économique en région, ben il faut arrêter de toujours dire non au projet, toujours mettre des bâtons dans les roues. Puis ça veut pas dire d'être vraiment trop flexible du côté de la protection de l'environnement, mais je pense que la protection de l'environnement puis la croissance économique, ce sont pas deux choses qui sont mutuellement exclusives. Il peut y avoir un arrimage des deux, puis il faut travailler main dans la main tous les groupes ensemble pour arriver à faire croître l'économie régionale.
Oui, mais tu sais, M. Ouellet, depuis hier, on entend parler des projets environnementaux de Résolu, de Rio Tinto. Oui. Mais ça, c'est des business qui sont déjà ici. Puis dans le mieux, dans le meilleur des mondes, on va maintenir les emplois qu'on a actuellement et non pas accroître le nombre d'emplois. Est-ce que vous croyez qu'un jour, même en additionnant tous les petits projets des 10, des 15, des 20 prochaines années, on va réussir à atteindre le 10, 12 milliards de dollars avec des projets, exemple, de création de gaz naturel avec de la biomasse forestière?
Bien, je suis un éternel positif dans la vie, mais je pense que là-dessus, je suis assez pessimiste dans le sens que, à force de dire non à des projets comme on vient le faire, ça se peut que vraiment on se tire dans le pied carrément. Puis, comme vous le dites, des fois, on voit des projets, par exemple, qui ont lieu, je sais pas moi, en Abitibi. Puis là, après, on donne une subvention pour que le projet soit transféré à Varennes ou au Saguenay, par exemple. Mais pour la province, l'effet net est nul, dans le sens où on fait juste transporter des emplois de l'Abitibi au Saguenay, à la place de faire en sorte d'attirer les investissements étrangers, de la nouvelle argent, des nouveaux emplois qui seraient créés. Donc, c'est ça aussi qu'il faut tenir compte dans notre analyse économique.
Ouais, puis si on va finir avec ça, mais ce que je trouve décevant également, un autre exemple qui est donné depuis longtemps de miser davantage sur l'économie des cerveaux. Puis là, on est tout content d'avoir Ubisoft Saguenay. Puis c'est vrai que je suis content, c'est le fun. Mais il ne faut pas oublier que si le gouvernement du Québec ne donnait pas un coup de main financier à Ubisoft, il ne serait même pas au Québec, là.
Exact. Puis les compagnies, ils le savent. Hein. Ils arrivent au Québec, puis ils savent que la plus grande entreprise au Québec, c'est l'État. Donc, ils vont voir le gouvernement, puis ils vont essayer de voir est-ce que je peux avoir une subvention pour aller en région parce qu'ils savent que le gouvernement sait ce qu'il veut. Mais un moment donné, le gouvernement, s'il donne des subventions d'un côté pour attirer des investissements en région, il ne faut pas non plus qu'ils mettent trop de bâtons dans les roues d'autres investissements qui sont 100% privés, qui voudraient venir en région. Donc, il faut plus de cohérence. Puis je crois que c'est ça qui manque présentement au Québec quand l'État essaie toujours de choisir les gagnants et les perdants sur le marché. Il faut quand même qu'il y ait une certaine nuance puis un équilibre dans tout ça. Puis malheureusement, je pense qu'on s'en va trop d'un côté où ce qu'on envoie le message que le Québec, c'est pas propice pour les investissements privés. Là.
Et je le répète, puis vous pourrez me corriger si vous n'êtes pas d'accord, mais je crois que même avec un oui du gouvernement, ça n'aurait pas été si facile que ça de voir une première pelletée de terre de l'usine de liquéfaction à la baie. Ils ont eu quand même plusieurs tuiles qui leur ont tombé sur la tête, GNL Québec, dans les dernières années, mais on ne saura jamais s'ils auraient réussi à faire leur projet avec des capitaux 100% privés.
Ben effectivement, surtout que ça fait quand même plusieurs années que le gouvernement met des bâtons dans les roues du projet, directement et indirectement. Même chose pour une certaine tranche de groupes plus militants, il faut quand même le dire, là, que ça fait peur parfois au projet. Donc, même s'il y avait eu un oui, comme vous dites, ça se peut que ça aurait été difficile, mais certainement, un non catégorique n'est pas la réponse à un projet de 14 milliards qui aurait créé des milliers d'emplois au Saguenay.
M. Ouellet, merci.
Merci à vous.
Au revoir, bonne fin de journée. Miguel Ouellet, économiste et directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal. Plusieurs choses intéressantes à retenir de son discours sur l'image que ça envoie. Est-ce qu'on est réellement une terre d'accueil au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour des investisseurs privés? Puis, tu sais, faites l'exercice, là, pour ou contre le projet de GNL Québec, c'est pas important, il est mort de toute façon, là. Faites l'exercice, là. Et demandez-vous si ça va tenter aux investisseurs dorénavant de venir s'embourber dans une lourdeur administrative qui finit plus de finir avec des discussions qui traînent sur des années pour finalement se faire dire non après quand même nombre d'investissements pour travailler le projet, travailler le dossier. Avec la possibilité également de voir des groupes environnementaux qui vont dire non à tout si c'est pas de faire pousser des fougères. La réalité pour certains, c'est ça, là. Ça, c'est la réalité pour certains. Puis je l'ai entendu dernièrement. On devrait miser davantage sur le fjord et sur le tourisme. Tu ne feras jamais 10 milliards avec ça, là. Je vous réveille tout de suite, là. D'ailleurs, un des prochaines cibles des environnementalistes, c'est même commencé, ce sera les bateaux de croisière. Puis ça en est du tourisme, là. Parce que c'est de la navigation dans le fjord.
La touche estivale se